Merci, et tout de suite, on déhousse les raquettes.
1, 2, 3.
Bonsoir, je suis Mathilde Serrel.
Et je suis Martin Kénéen.
Je suis Alexandre Mathiussi.
Je suis Loïc Prigent.
Et ce soir, grâce à eux, la table de ping-pong est au cœur de l'asile psychiatrique le mieux habillé du monde, la mode.
Ping-pong, la culture sans limite. Oh, yeah. Et dit tout.
La culture sert à tout, même à savoir s'habiller. Badaboum, nous disait récemment le magazine Elle, il n'y aurait plus de saison. Au sens propre, Kanye West et Burberry, pour ne citer qu'eux, proposent en effet des collections de vêtements sans saison. Même pas des demi-saisons, ni même des petites collections croisières de rien du tout. Est-ce un effet du réchauffement climatique? Qui sait? Mais l'historien François Hartog nous propose une autre théorie. Lui qui étudie l'évolution de notre rapport au temps et distingue ce qu'il appelle quatre régimes d'historicité. Jadis, il y eut ainsi le régime héroïque, celui des rois et des batailles. Mais il est has-been, ringard. En gros, c'est comme vous quand vous vouez un culte au passé et que le seul truc qui vous fait vraiment rêver, c'est une cotte de maille ou une robe en métal Paco Rabanne. Vous n'êtes pas dans le basique, mais dans ce que Max Weber appelait l'éternel hier. Ensuite, selon Hartog, il y a eu le régime eschatologique, le temps chrétien, tourné vers l'espoir du salut. Ça, c'est juste bon pour les coincés qui méprisent les fringues de marque en espérant faire bonne figure le jour du jugement dernier. Après, ça a été le tour du régime progressiste, le temps où l'on croyait au perfectionnement incessant, au progrès. Et là, ça concerne les nerds qui portent des textiles intelligents et des accessoires panoptiques façon Google Watch. Et puis, il y a finalement ce qu'Hartog nomme le présentisme. Un rapport au temps éclairé ou obscurci par les errances et les horreurs du siècle passé et de ces dernières années. Un rapport au temps qui ne croit plus guère en l'avenir, ce qui donne des gens sapés normcore, normal, mais en mode hardcore, comme Victoria Beckham, grande lectrice de François Hartog. Mais d'après le magazine Vogue, le présentisme, ça donne aussi cet hiver des épaules larges années 80, une taille corsée, du lurex shiny all over, de l'oversize, du streetwear et tout plein d'effets matelassés. Bref, le bordel généralisé.
Fashion. Écoutez-moi, ne m'écoutez pas. Parlez avec moi, ne parlez pas avec moi. Dansez avec moi, ne dansez pas avec moi. Bip bip. Bip bip. Wap. Wap pa 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 fa 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 fashion.
Trêve de confiserie, l'essai de François Hartog, Régime d'historicité, est publié au Seuil et Vogue par Condé Nast. Loïc Prigent, ce rapport au temps, il est consubstantiel de la mode qui fonctionne par cycle ou même qui échappe aux saisons avec les dernières propositions que j'évoquais à l'instant. Vous êtes sensible à cette question du temps et même de l'histoire. Je citais les travaux de François Hartog, vous vous dites témoin de la mode. Et j'ai vérifié en grec, témoin, ça se dit histor. Vous vous sentez aussi un historien de la mode?
Ce qui est bien quand on suit la mode, c'est qu'à chaque fois, elle vous propose des collections de dans 6 mois, voire de dans 1 an. Quand on va voir les défilés d'Alexandre Mathiussi, son dernier défilé qui était en juillet dernier, c'était l'été, il nous a montré l'été 2017. Donc on est témoin de ce qui va se passer, qui s'est pas encore passé, que personne n'a encore porté. Parfois, personne ne va porter, Dieu merci, voilà. Enfin, c'est des propositions qu'on voit souvent. Et ça, c'est un truc qui me plaît bien, le côté, on regarde un truc qui va se passer, ouais.
Alexandre Mathiussi, vous avez créé la marque Ami en 2010. Vous vous sentez, comme le dit Loïc Prigent, voyant ou visionnaire?
Écoutez, c'est une question qui est un peu... C'est parti parce qu'on nous pose souvent la question, par exemple, à l'extérieur. On nous dit, c'est quoi les tendances? Qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine, la semaine prochaine? C'est vrai qu'on travaille... Enfin, moi, je travaille difficilement dans cette optique-là. Je pense au moment présent quand même. C'est-à-dire qu'on on est dans une saison. On commence l'hiver, l'été. On commence l'été, l'hiver. Donc,
Mais il n'y a plus d'été, il n'y a plus d'hiver.
Ça dépend dans quel coin. Ouais, il y a des... Voilà. Enfin, en tout cas, tout le monde s'habille à peu près pareil, surtout maintenant. C'est vrai qu'on parle d'une mondialisation de la mode. Ce qui est une réalité, c'est vrai que la communication, Internet, enfin tout ce qu'on a entre les mains toute la journée entre nos iPhones, nos iPads et toutes les applications qui nous servent à observer voilà, ce métier de très près, enfin, en tout cas le métier qu'on fait, c'est-à-dire dessiner des vêtements, fait que voilà, il y a une espèce d'universalité, voilà, de la proposition qu'on fait à l'instant T. Alors évidemment, après, il y a un travail de production, on est lié à des plannings qui sont très précis. Alors ces plannings sont en train d'être détruits en ce moment. On essaye de justement raccourcir les temps de production pour faire en sorte que les vêtements arrivent le plus tôt possible sur le terrain, comme on dit, donc dans les boutiques, dans les grands magasins, et faire en sorte que finalement les gens portent le plus vite possible les vêtements qu'ils auront vus, observés à travers les médias la veille, parfois, très tôt.
Universalité, instantanéité et méchanceté aussi parfois.
Mathilde Serrel, Martin Kénéen.
Allô ? Allô ?
Ping-pong.
Allô, 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 allô. Oui, je t'entends très bien. Depuis que ses collections sont moches, son chiffre d'affaires a été multiplié par 10. Kanye a appelé pour venir au défilé avec Kim. On a dit, non, pas Kim, c'est pas notre image. Alors il est venu, l'a laissé dans la voiture. L'attaché de presse m'a dit qu'on pouvait tout filmer. Ensuite, elle a précisé, sauf le créateur, les équipes, le décor, et surtout pas de questions. J'ai pris le RER, le collapse. C'est comme la braderie Isabelle Marant, mais sans les fringues. L'inspiration, c'est une femme qui travaille, mais qui a 5 maisons secondaires. Désolée, je ne peux pas te parler, c'est septembre, et septembre, c'est mode.
Et oui, septembre, c'est mode, la semaine de la mode. Ça débutera justement un petit peu après. Là, on est vendredi 23, il faudra attendre le 25. Catherine Deneuve lit la mode. C'est une série documentaire de 22 mini-épisodes à partir du 26 septembre sur Arte jusqu'au 7. Loïc Prigent, vous avez réussi donc à faire lire ces phrases lues et entendues de la mode à Catherine Deneuve. Vous la faites énormément rire. Pourquoi elle découvre les phrases au fur et à mesure que vous tournez ?
J'étais un peu cruel, c'est-à-dire qu'elle avait vraiment lu et travaillé les phrases et j'en ai glissé un petit peu des nouvelles.
Vous aviez
dans le paquet, pour qu'il y ait des petites surprises, pour qu'il y ait du piment.
Vous appelez ça des pépiments. C'est quoi la définition d'un
pépiment ?
C'est
Charles Dancy qui a trouvé ce nom-là, qui est l'éditeur chez Grasset. Et qui
vous a convaincu d'ailleurs, parce que vous ne vouliez pas spécialement au départ publier ses tweets en livre.
Ouais, je suis un gars farouche. Et il m'a convaincu et il disait que c'est pépiment, parce que c'est vrai que le Twitter, c'est le logo, c'est un petit oiseau, et c'est parce que c'est du gazouillis. Et que pépiment, ça lui plaisait. Je crois que le côté féminin du terme, léger, frivole, du terme pépiment, lui plaisait bien.
Donc c'est des tweets, pour reprendre l'historique que vous avez balancé comme ça, sans qu'on sache donc qui prononce la phrase. C'est important pour vous justement d'effacer complètement le contexte et le nom de la personne qui prononce ces phrases sur Twitter, parce que ce qui compte justement c'est cette écume-là.
C'est parce que je veux pas que ça devienne un casting de phrases ou un truc encore plus casse-gueule de méchanceté supposée ou de voilà. Il y en a par exemple dites par. Alexandre Mathussi, ici présent.
Lesquels ?
Non, en fait, j'ai un... Tu les assumes ou pas ?
J'en reconnais qu'une, du coup. Enfin, je les ai pas encore vues. J'ai pas encore vu Catherine lire les tweets de Loïc. En fait, j'en ai fait un comme ça que j'ai raconté à Loïc un jour où j'ai un digicode, pour être honnête, c'est mon digicode.
Moi, j'ai transformé en code PIN pour vous protéger.
Ouais, bon, mon digicode, en fait, c'est 4829. Et un ami m'appelle en bas de la maison, il me dit c'est quoi ton code ? Je dis 4829 et il a compris Catherine Deneuve. Voilà, donc Catherine Deneuve, 4829, voilà, on s'en souvient, on a ri, je l'ai raconté à Loïc. Et maintenant de voir Catherine Deneuve qui lit mon digicode, ça m'amuse beaucoup. Je suis très fier.
Loïc Prigent, toutes ces phrases qui sont voisins, rassemblées chez Grasset sous le titre « J'adore la mode, mais c'est tout ce que je déteste » et c'est déjà un pépiment, une citation. C'est donc des phrases que vous avez recueillies l'oreille tendue à la fois dans les défilés de mode, à la fois dans les ateliers, à la fois dans les soirées, j'imagine, et les petits matins blêmes qui s'en suivent ou réjouissants au café. Vous le faites valoir dans la préface. On a affaire en découvrant cet univers à travers toutes ces phrases à l'hôpital psychiatrique à ciel ouvert, le mieux habillé du monde, comme le rappelait Mathilde. Et j'ai trouvé cette phrase sous la plume de Georg Simmel, qui a écrit sur la mode, où il dit que la mode est un lieu d'élection où s'ébattent les individus privés d'autonomie intérieure, les névrosés, qui ont besoin d'appui, mais dont l'amour propre exige en même temps qu'on les distingue quelque peu, qu'on leur prête attention et qu'on les traite à part. Vous êtes sensible à la fois toute la folie environnante de cet univers que vous avez cherché à rassembler, à condenser, et en même temps au soutien dont ont besoin toutes les actrices et tous les acteurs de ce milieu.
Bah, y a comme un mépris dans la formule c'est terrible, de ce monsieur. Alors que moi, je préfère constater les mêmes choses en riant, en étant potache ou cruel ou juste drôle. Et je cherche pas à juger ou à cherche pas à quelque chose de trop définitif ou trop. Je préfère que ça reste léger.
C'est un terrain quand même. C'est un théâtre.
Alexandre Matisse.
Oui, c'est un théâtre. Voilà, c'est quand même le milieu de la mode en lui-même, dont on est les acteurs nous-mêmes parfois. On se retrouve dans des situations assez rocambolesques. Parce qu'en fait, c'est vrai que il y a aussi surtout un décalage. C'est un microcosme. En même temps, le vêtement aujourd'hui, en tant qu'industrie, représente voilà une part importante de la culture même. Enfin, c'est quelque chose qui s'exporte très bien. La France aussi, donc voilà, la Paris aussi l'assume très très bien. Enfin, en tout cas. Promeut très bien le milieu de la mode, c'est culturellement très intéressant. Et en même temps, voilà, il se passe des choses très rigolotes parce que on parle de chiffons et on parle de mannequins qui deviennent des stars alors qu'elles étaient inconnues la veille. On adore savoir qu'un directeur artistique va peut-être être viré d'une maison, et puis on adore savoir que un attaché de presse va finalement passer dans une autre. Enfin, voilà, ça devient un espèce de voilà, c'est un théâtre assez drôle. Donc du coup, je sais pas s'il y a de la méchanceté finalement. Je n'ai pas l'impression que les gens soient particulièrement méchants. Plus que dans un autre milieu, mais c'est vrai qu'il y a quand même...
Le caprice encouragé.
Voilà.
Et Loïc Prigent, justement, on est émerveillé par le langage qui s'invente. En fait, il y a presque aussi une démarche esthétique dans cette bulle de la bulle de la bulle que vous décrivez dans le livre. Il y a à la fois une sorte de tendance à dire tout et son contraire, en tout cas comme vous le dites, c'est-à-dire de manifester une vérité du temps présent pour la nier dans la foulée, réinventer un monde. Voilà, il y a aussi une démarche esthétique de réinvention du vocabulaire. C'est ça finalement qui vous a donné envie de le reprendre, de le faire exister.
Moi, j'aime bien le monde parallèle de la mode. Enfin, j'aime bien quand il y a des mondes parallèles. Les gens qui font du théâtre, j'imagine qu'ils créent des mondes parallèles. Les gens qui créent des romans, ils vont dans un monde parallèle. Et les gens de la mode vivent dans un monde parallèle. Et ça, je trouve ça magnifique. J'aime vraiment bien la bulle de la bulle de la bulle, faire des vêtements pour le 0,1%, ça me fait beaucoup rire.
Mais si on parle justement de ce langage, voilà, de ce vocabulaire, parce que ce lexique, Barthes en avait déjà parlé dans son système de la mode, un lexique qui ne cesse de se réinventer. Chaque année, on trouve des synonymes pour pouvoir dire quelque chose de neuf par rapport à quelque chose qui a peut-être existé. Mais l'important, c'est qu'on réinvente, c'est qu'on fasse naître des nouveaux mondes parallèles qui puissent nourrir notre imaginaire et fleurir dans notre imaginaire, Loïc Prigent. C'est quoi les mots, justement, du présent ou alors de ce futur, puisqu'on est quasiment avec les Bogdanov avec vous, on est des visiteurs du futur. C'est quoi les mots d'aujourd'hui de ce lexique de la mode?
Il y a une pollution qui arrive par les mots de réseaux sociaux dans la mode, j'ai l'impression. Je sais pas, ça va être un mélange de choses extrêmement précises. Ce matin, j'ai entendu faites une bouche très couleur bouche. Et c'était assez mignon, ça voulait dire rouge, quoi. Il y avait sur un magazine, ils avaient crédité le fond de teint de la fille Nude Air. Ouais, parce que oui, ça veut pas dire, c'est même pas, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, beige vif. Et il y a une, l'offre de la mode est tellement énorme, c'est-à-dire que des fonds de teint, on en vend littéralement des millions, enfin des milliers dans cette catégorie, qui sont tous beiges. Et ben, on va trouver, s'il y a 100 000 fonds de teint beige, on va trouver 100 000 noms différents pour les appeler. Donc ça, c'est assez drôle. Et il y a aussi la précision. C'est-à-dire que les gens de la mode veulent que ce soit ce beige vif-là.
Alexandre Matisse, ou pas un beige, les mots-clés, peut-être de votre nouvelle
collection.
Les mots-clés,
je sais pas, mais en fait, ce qui est étonnant aussi, c'est que, l'idée de la révolution, de la réinvention, elle passe pas forcément par le vêtement, alors que nos métiers sont d'abord, on montre ça, on montre des vêtements, mais ça passe vraiment par, c'est de la politique parfois, c'est de la communication surtout. C'est ça qui va devenir nouveau, c'est qui on va mettre dans une maison, par exemple, qui va dessiner cette collection. C'est là qu'on va créer la surprise. C'est pas forcément dans la coupe d'un vêtement ou voilà, parce que les vêtements, j'ai l'impression qu'on les a déjà tous vus certainement. Enfin,
est-ce que c'est pas de la poésie aussi? Est-ce que c'est pas des mots justement? Qu'on choisit pour caractériser vos modèles, les pièces que vous produisez, et qui font rêver.
Ce que disait Loïc, c'est un monde parallèle. En même temps, voilà, on est obligé d'y croire aussi un peu, sinon on ne le fait pas, ce métier. C'est vrai qu'on vit dans une certaine fantaisie. On ne fait pas juste un jean, une chemise, un pull. Enfin, voilà, le pull, il faut lui donner autre chose que... Bien qu'on fera quand même un col pour l'enfiler et puis deux manches pour mettre nos bras, mais c'est justement dans la description de tout ça et en effet les histoires qu'on se raconte. Moi en tant que styliste, même si je suis pas le créateur probablement le plus fantasque de ma génération, mais on est quand même.
On y reviendra.
On est quand même obligé de croire à ce qu'on fait, de croire à ce qu'on dit et en tout cas. C'est comme ça aussi que les gens vont aussi adhérer à notre propos.
Et Alexandre Matuissi, justement, comment est-ce que vous voyez l'inspiration? L'inspiration dans le livre des tweets de Loïc Prigent qui est publié chez Grasset, c'est une phrase qui revient. Au début, je me demandais, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'ils sont, on va dire, presque comme des poètes de la Pléiade en train d'essayer de définir l'inspiration? L'inspiration, donc, c'est ce qui préside, on va dire, à l'univers, au mood board presque, pour reprendre des mots du milieu, d'une collection. Voilà, ça vous parle, vous, ces histoires d'inspiration qui varient, la définition? La définition varie dans le livre de Loïc Prigent, ça peut être par exemple cher en vacances à Las Vegas mais en deuil.
Oui, c'était vraiment ça, c'était la punchline. Moi j'ai un propos qui est peut-être un peu différent parce que j'ai créé Ami avec un postulat au départ qui était, très honnête et très sincère, c'est que moi je sortais de grandes maisons, donc j'ai eu la chance d'apprendre mon métier dans de très belles maisons.
Oui, j'ai Dior, Marc Jacobs.
Donc j'ai été très gâté parce qu'en plus c'est des maisons... dans lesquelles j'ai pu faire des bêtises aussi, où j'ai pu me tromper, faire des grosses conneries.
Alors, il définit bêtises?
Rater des vêtements, surtout rater des manches, rater des vestes, choisir des mauvais tissus. Je le fais toujours peut-être encore, mais aujourd'hui, j'ai pas le choix, autre choix que de l'assumer. Mais c'est vrai que mon postulat au départ, c'était ami, ça doit être un vestiaire de potes. Donc c'est des vêtements que moi-même je porte. C'était la caution. Alors je dis toujours comme un bon cuisinier qui prépare sa soupe et qui la goûte et qui dit je l'aime ma soupe, donc je peux l'offrir. En tout cas, je peux la mettre sur la carte. Donc il y avait cette idée-là. J'étais très connecté avec le vêtement. Je suis très connecté avec le vêtement que je dessine. Ce qui n'est pas forcément le cas pour beaucoup de créateurs. Il y a des créateurs qui ne s'habillent jamais dans les vêtements qu'ils dessinent. C'est comme un musicien qui écoute très pas sa musique. Donc moi j'ai ce rapport là aux vêtements, j'ai un rapport très intime finalement. Je porte les vêtements que je dessine. Donc du coup c'était cette idée là du vestiaire de pote. C'est ce gars que je croise dans la rue tous les matins quand je pars travailler, que je croise à une terrasse de café. C'est le Parisien quand même, dans cette idée là du Parisien qui est quand même aussi singulier.
Il y a des inspirations quand même, parce qu'il y a eu la collection du marché, la collection du métro.
J'ai inscrit dans la communication, dans les histoires, parce qu'après c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à la fin une chemise c'est une chemise. Vous portez une chemise blanche aujourd'hui, c'est une chemise blanche. Je sais pas si la mienne, c'est pas une chemise mes amis, je crois pas.
Non.
On fait tous le vestiaire de l'homme. En plus, c'est extrêmement codifié. On parle d'une chemise, d'une veste, d'un t-shirt, d'un jean, d'une paire de chaussures en cuir, d'une paire de baskets blanches. Le vestiaire de l'homme, il est quand même, je vais pas dire limité parce que c'est pas le cas, mais en tout cas, on tourne autour de vêtements qui sont, d'un vestiaire qui est assez codifié. Donc, du coup, l'inspiration et l'histoire qu'on raconte derrière, évidemment, est très importante. Moi, j'ai voulu, dans mes présentations au départ et maintenant des défilés, un peu inscrire l'homme ami comme un peu Martine à la plage. Martine en vacances, Martine au marché. Donc c'était l'idée d'ami comme quelqu'un avec lequel on pouvait s'identifier facilement. L'homme ami c'est moi, mais l'homme ami c'est aussi vous, c'est votre frère, votre mec, votre pote, votre père, sachant que ça reste un vestiaire, j'espère permissif, qui va à un homme de 17 à 77 ans.
Et Loïc Prigent, vous y croyez vous aussi à cette histoire d'inspiration, peut-être plus qu'Alexandre Matuissi, à ce qui préside à une collection? C'est important d'avoir une idée clé?
On voit ça d'ailleurs dans vos pépiments. Hein. Martine à la plage, ça pourrait être une inspiration.
C'est vrai, mais oui. Moi, j'aime beaucoup quand les inspirations deviennent des poètes, des poèmes un peu dada, des comme des cadavres exquis. Il y en a eu un là en juillet où c'était un naufrage à Ibiza. Et la collection était assez jolie. C'est
pas
mal.
Qu'on demande aux stylistes, pour ceux qui sont pas coutumiers de cet univers, qu'on demande. C'est une des premières questions, je pense, qu'on demande aux stylistes. C'est quoi l'inspiration de votre collection?
C'est quoi l'inspiration? Parce que soit on vous a bombardé de trucs complètement abracadabrants, soit vous avez pas trop de, vous savez pas trop comment prendre la chose. Donc la question entendue est quelle est l'inspiration? C'est Elsa Klein, je crois, qui a un peu inauguré cette question, qui était la reporter dans les années 80 pour CNN. Et son autre question, c'était Tell me about the colors. C'est une question que j'adore. Mais oui, dites-moi.
Tu l'as déjà posé d'ailleurs cette question.
Ah, mais c'est une question géniale. Delmi about the colors. Il n'y a pas de question idiote. Hein. Plus la question est idiote, plus la réponse est bien. En mode, en tout cas, souvent.
Vous voulez qu'on essaye avec vous?
Ah ouais, vous n'allez pas être déçu. Et moi, je pense que même Alexandre, il s'inspire. C'est vrai que c'est moins. Toi, t'es moins dans le cadre exquis, mais il y a eu une collection où c'était le métro et les rencontres qu'on pouvait voir dans le métro, les gens qu'on croisait dans le métro. Et je trouvais que c'était. L'inspiration, elle est intéressante quand elle est surprenante, de toute façon.
Je raconte d'abord l'histoire. Enfin, j'imagine l'histoire, la situation. Comment j'inscris mon histoire? Donc, le défilé, parce que c'est le seul moment, enfin, en tout cas, dans nos métiers. C'est un peu comme le théâtre le samedi soir, c'est la représentation. Alors là, c'est biannuel pour moi, c'est deux fois par an. Sur le calendrier de l'homme, c'est en janvier et en juin. Donc ben voilà, on a 10 minutes pour convaincre. C'est assez compliqué d'ailleurs. Enfin, on parlait du rythme au début, mais c'est vrai que voilà. Encore une fois, je suis gâté parce que je ne dessine que deux collections par an pour le moment. Alors je dis que je suis gâté parce qu'en effet, le rythme peut devenir infernal. Il y a des maisons, des créateurs qui travaillent sur 8, 12, 14 collections par an. Et c'est vrai que là, la question de l'inspiration se pose réellement. On est quand même si c'est une industrie, qu'on travaille, c'est un commerce, la mode est avant tout un endroit où on vend des vêtements, le processus créatif reste artistique. Donc c'est vraiment, à départ, une inspiration, le choix de matière, le choix de couleur, même si à la fin, ça fera une veste. Mais en tout cas, la réflexion au départ, elle est créative. Et pour le coup, c'est vrai que tous ces bouleversements qu'on est en train de vivre en ce moment, que voilà, les grandes chaînes de distribution comme H&M, Zara ont finalement initié il y a plusieurs années et qui viennent bouleverser finalement le luxe aussi, parce que le luxe en est le premier bouleversé.
Georg Simmel, que je citais tout à l'heure, grand sociologue allemand, qui a pu aussi dire, prophétiser au 19e siècle, plus la mode change vite et plus le prix des choses doit baisser. Et la mode aujourd'hui est soumise à ces impératifs, à ce diktat.
Il y a une réelle question qui se pose, ouais. Et en même temps, le luxe est encore plus luxe. Le luxe devient encore plus luxe. Enfin, c'est des marques comme la mienne où le positionnement est finalement assez délicat. Mais il y a un client, évidemment, il est là, il existe aujourd'hui. Un client. Alors après, j'ai des prix qui sont, tout est relatif évidemment, ça reste un prix qui est élevé parce que c'est un produit qui est de qualité. Mais en tout cas, on est beaucoup moins cher que les maisons de luxe. En même temps, nous ne sommes pas une maison de luxe. On ne travaille pas sur des processus d'industrialisation du luxe. Mais en même temps, on n'est pas du mass market non plus. Donc, on est entre les deux.
Vous-même, vous portez de la haute couture?
J'ai cette chance, oui. J'ai cette chance de porter de la haute couture.
Ça change quoi?
Ça change tout. C'est que d'abord, je suis la seule à le porter. Je risque pas de rencontrer quelqu'un d'autre avec le même tailleur.
C'est pas compliqué à entretenir ou quoi que ce soit, ça?
Non, pourquoi?
Je sais pas, il faut un bon pressing, quand même.
Oui, mais ça, on a aussi. Oui. On a tout. On a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut.
Oui, quand on a de la couture, on n'a pas de problème de pressing, aussi.
Oui, non.
On n'a aucun problème.
Non, on n'a aucun problème. Sauf de choisir, c'est tout.
Il y a un réel confort.
C'est à vous. Ça n'a rien à voir. C'est pas un décrochez-moi ça, comme disait mademoiselle.
Elle appelle ça comme ça?
Ben oui, parce qu'il n'y a pas de taille. Et si vous voulez, quand on présente un modèle qui est fait sur un mannequin, la cliente, on le met à sa taille.
Bon, alors ça, c'est l'endroit qu'on appelle la grotte.
Allez, je vous laisse entrer.
Voilà, donc là, vous avez les mannequins de clientes.
Ça, c'est les vôtres ou c'est de toute ta maison qui sont
non,
là?
Non, c'est juste les miens, ceux-là.
Et donc, voilà. Tous vos clientes que vous habillez, la 110, elle n'est pas toute mince, hein?
Oui, ben voilà, on a un petit peu tous les gabarits, mais on les rembourre, on les débourre, on les... Voilà.
C'est un placard de femmes riches.
Exactement.
C'est le placard du 1%.
Exactement.
Alors, quand je suis arrivée ici en 71, c'était magique. Il y avait le corps de Jackie Kennedy, il y avait le corps de Marlène Dietrich, il y avait le corps de Jeanne Moreau, il y avait le corps de Romy Schneider...
Vous êtes infiltrée chez Chanel, rue Cambon. Qu'est-ce que la haute couture? Une question posée en noir et blanc par Loïc Prigent. Vous la découvrez, la réponse et les réponses, parce qu'elles sont multiples. Ce sera le 30 septembre sur Arte à 22h30. Un nouveau documentaire. Loïc Prigent, d'abord, une réaction sur cette idée. Cette idée sur la mode qui aurait une multiplicité et une autre ligne qui serait que le prix baisserait en conséquence.
D'un côté, on a une espèce de course à la chemise à 29,90. Et je crois que c'est quelque chose qui fait vraiment des ravages écologiques et tout ça. Mais bon, qui permet à plein de gens de s'habiller de façon vraiment plutôt cool et créative. Et je crois que la rue est très, enfin, la rue s'habille vraiment, vraiment bien aujourd'hui. Mmh. Et,
clairement, oui.
C'est vraiment beau, quoi. Les matières sont pas mal, les couleurs sont bien, les coupes sont super bien et tout ça. Et après, dans les maisons de luxe, une dame m'expliquait, ah, nous, on fait des prix émotionnels. J'ai dit, ah bon, qu'est-ce que c'est le prix émotionnel? Il m'avait expliqué que c'était en fait, combien est-ce que la cliente pense que ça devrait valoir pour que ça vale quelque chose? 22 000. 25 000. Voilà, donc c'est vraiment un prix émotionnel et que dans leur gamme, dans leur boutique, il y avait 2-3 prix qui eux étaient un peu concrets pour que des hit girls, comme elle disait, les habits, qu'elles aient quand même 2-3 clientes un peu cool qui s'affichent dans des fringues cool, mais que le reste c'était du prix émotionnel.
Ce qui est intéressant, on entend là, c'est que vous vous faites oublier en fait avec ce micro, cette caméra, c'est votre qualité de documentariste, ça vous a donné une série de surnoms, on vous appelle Loïc Prigent, c'est le Mediapart de la mode, ça c'est Karl Lagerfeld qui dit ça, dans Télérama on vous a appelé le Jack Power de la SAP, et cette question qui revient chez votre mentor Gérard Lefort, avec qui vous avez commencé à Libération, je dis mentor pour aller vite, mais vous avez beaucoup travaillé avec lui, c'est cette idée de faire un documentaire sur autre chose. Pourquoi pas un jour, puisque vous avez justement cette faculté de vous faire oublier et donc d'obtenir des confidences. Ça vous tente pas, ça, Loïc Prigent ?
Mais j'en ai fait sur d'autres choses. J'ai un projet, là, en plus, sur autre chose aussi. Après, je revendique à 100 000% de faire des documentaires sur la mode et de le faire jusqu'à la tombe. Et d'en faire et d'en refaire et de revenir de la tombe pour en continuer à en faire, parce que c'est un sujet qui vraiment m'intéresse énormément, qui est, et je pense, inépuisable, et je crois que quand on, enfin voilà, j'ai fait pas mal de documentaires sur la mode et donc je vois, enfin.
Et c'est la force de Loïc, je te coupe, parce que t'es quand même le meilleur. Oui, t'es le meilleur pour faire, parce que moi, on se connaît depuis finalement que 5 ans, mais j'ai eu, voilà, depuis très longtemps, j'observe le travail de Loïc et en fait il a rendu finalement la mode populaire d'une certaine manière, c'est-à-dire que le regard qu'il pose sur ce métier-là, avec beaucoup de recul, beaucoup de dérision, il en a fait quelque chose de très drôle, d'être pétillant, de sympathique, et c'est vrai que il y a un côté comme ça, quand on tombe sur un doc de Loïc, on a envie de le regarder jusqu'au bout, et surtout quand il se termine, on est un peu triste que ça se termine. C'est vrai que ton signé Chanel, il était canon parce que c'était sur plusieurs épisodes, et là ça devenait, j'ai l'impression qu'on pourrait, enfin moi je pourrais regarder, enfin j'aime regarder la mode qu'à travers ce prisme-là, parce que je trouve qu'il est, extrêmement juste, quoi.
Loïc Prigent, si c'est un sujet que vous n'avez pas fini d'explorer la mode, c'est aussi parce que justement, vous le disiez, Alexandre Matuissi, ça touche à quelque chose d'intime. Baudrillard, moi j'aime bien m'habiller de citations ce soir, Baudrillard a pu dire que la mode peut s'entendre à la fois comme le jeu le plus superficiel, mais aussi comme la forme sociale la plus profonde, parce que c'est l'investissement de tous les domaines par le code. Et vous, est-ce qu'une partie de votre travail, c'est pas justement de dénuder, de dévoiler les codes de la mode?
Ou de les montrer, ou de les... Qu'est-ce que la haute couture? C'est vraiment un documentaire dont le titre est une question, et il n'y a aucune voix off, c'est que vous entendez que ma voix qui pose des questions, plus ou moins idiotes, plus ou moins bonnet, plus ou moins candide, ou plus ou moins... Enfin, des fois...
Bon, vous êtes un initié aujourd'hui, comme on dit dans les cultes à mystère. Vous auriez un code à nous révéler?
Quand je vois une dame faire un droit fil, j'ai toujours pas compris. Elles ont beau me l'avoir expliqué depuis quelques années, je comprends toujours pas ce que c'est qu'un droit fil. Ou quand une dame, quand je demande à ces dames qu'est-ce que ça change la haute couture, qu'elles me répondent toutes tout, je comprends pas exactement parce que j'en ai jamais porté. Et donc non, je revendique pas. Je revendique vraiment une innocence ou une, comment on dirait.
Naïveté, curieuse, pas sincère,
ouais, voilà.
Quoi.
Ouais. Mais... J'aime bien dire que je suis le stagiaire un peu idiot.
Alors attention, parce que les stagiaires, on apprend beaucoup hein, sur les stagiaires. Donc j'adore la mode, mais c'est tout ce que je déteste, ce recueil de tweets, mais on se recueille aussi devant la cathédrale de la mode. J'ai une question, justement, c'est ces petites mains qui reviennent beaucoup dans vos documentaires. Est-ce que c'est là aussi le fait que vous ne vous lassez jamais de faire des documentaires sur la mode? C'est cette dramaturgie qu'il y a chez les petites mains. Par exemple, je repense à Le Jour d'Avant, c'est une série de documentaires que vous faites, donc les veilles de défilé. Le Jour d'Avant, chez Fendi, il y a un instant dramatique. Est-ce qu'elles vont réussir à finir, elles prennent le train, on ne sait pas si les robes sont prêtes et on pleure. Voilà, je vous le dis, moi j'ai pleuré. Comment est-ce que vous faites pour nous faire pleurer devant les petites mains et qu'est-ce qu'elles éveillent chez vous pour vous les mettiez en scène comme ça?
Moi j'aime bien le... Bah, après c'est le truc de l'artiste et son atelier, c'est-à-dire aujourd'hui c'est vraiment une question qui est acquise dans la mode. C'est-à-dire que Karl Lagerfeld fait un dessin et ce sont des ateliers qui l'interprètent dans une toile, puis l'exécutent dans des tissus que lui a choisi. Après, on a des artistes comme Jeff Koons où ils sont des brigades à exécuter ces idées aussi. Mais là, c'est moins. J'ai l'impression que c'est plus.
C'est plus caché quand même.
C'est plus caché ou c'est revendiqué de façon différente et tout ça. Donc, j'ai l'impression que les petites mains font partie vraiment de la mode, comme l'attaché de presse hystérique fait partie de la mode, comme la mannequin fait partie de la mode, comme le Anna Wintour. Enfin, elles font partie du dispositif. Donc, pour moi, je me suis même pas posé la question. Ah tiens, est-ce que je vais les filmer? C'était elles font partie du dispositif, donc je les ai filmés. Et après, il y a un autre truc qui m'a rendu à filmer avec elle, c'est le temps. Parce que c'est vrai qu'il y a le dessin qui est un caprice, et après, il y a la réalité de ce dessin qui est 300 heures à s'user les yeux.
C'est beaucoup de travail. Et ça rend aussi ce métier très humain, en fait. Quand on voit les ateliers, ces couturières, ces premiers ateliers, tous ces gens qui travaillent, mais corps et âme, et qui donnent toute leur vie aussi pour faire en sorte que tout ça existe.
Alors, j'ai pas dormi depuis 6 semaines, hein. C'est le genre de phrase qu'on peut croiser dans ce documentaire sur la haute couture de Luc Prigent.
Moi, j'ai travaillé dans des maisons, honnêtement, on finissait très, très, très tard et on était là du lundi au dimanche. Enfin, c'est des métiers qui demandent, beaucoup, beaucoup de soi aussi. Donc, après, il y a des abus.
Hein. Parce qu'elle a fait un brainstorm bouton toute la nuit.
Voilà.
1, 2, 3.
Vous écoutez Ping Pong sur France Culture, l'émission qui, elle aussi, comme le rappelle Loïc Prigent, avance grâce à la caféine et à l'espoir de ses brillants stagiaires. À suivre la suite des pépiments et des infiltrations, des filatures de Loïc Prigent dans l'univers de la haute couture et la collection Ami avec Alexandre Matuissi.
Ping Pong. La culture sans limite.
La mort, c'est mauvais genre. Ça pourrait être l'un de vos tweets, Loïc Prigent, un pépiment de la mode, mi-cynique, mi-poétique, mais c'est du Lafayette, un garçon très haute couture, dont nous vous conseillons le nouvel album parce que, petit A, il porte haut les couleurs de la pop tricolore en respectant la règle des 3D, dandy, décontracté, désabusé. Petit B, cet ex-fan des 60s, bercé par les Kinks, a quitté ses compositions dans la langue de Ray Davies, avec son comparse Séverin, c'était avec le duo One Two, pour revenir à la langue de Dao, ou de Chamfort, ou de Jacques No, avec des titres comme Instantané sur la banquise. On est presque au milieu des pétrodollarés, des célinisés le propos et des clonasses de votre livre Loïc Prigent. Petit C, parce qu'il assume parfaitement le travestissement occasionnel avec un titre et un album du même nom, Les Dessous Féminins.
J'essayais après mon pain, qui m'ont finalement fait dégoûter.
c'est peut-être l'occasion de ressortir une veste saumon à épaulettes et de boire un cocktail au curaçao. Vous écoutez France Culture, l'émission Ping Pong et ce Roland des années 80 délicieux qui sent bon, il faut le dire. C'est Lafayette à l'instant, l'album sortira en pleine semaine de la mode le 30 septembre prochain et il sera en concert le 13 octobre à Paris ou ça au bain douche.
Alors ça, c'était le morceau Dessous féminin. Je ne peux pas m'empêcher de me tourner vers vous, Alexandre Matuissi, qui dessinait et qui concevait des vêtements pour l'homme. Bah, dans la chanson, oui, donc c'est un homme qui porte les dessous de sa compagne. Mais j'ai découvert en préparant cette émission que les slips qu'on appelle boxers, qui sont tellement en cours maintenant chez les hommes, au départ étaient appelés les Jean Genet boxer shorts dans l'histoire de la mode. Je ne sais pas si vous dessinez des dessous.
Toujours pas. Voilà, projet en cours.
C'est compliqué, c'est ça?
Non, c'est compliqué parce que généralement c'est quelque chose qui se travaille en licence, vous savez, les fameuses licences dans le milieu de la mode, les licences des lunettes, les parfums, les choses comme ça. Et le sous-vêtement, c'est un métier à part. C'est vrai que c'est un métier qu'on peut pas, en tout cas, c'est un produit qu'on peut pas aborder. Voilà, on se réveille un matin, on se dit on va faire des sous-vêtements. C'est une distribution qui est particulière. Mais on est évidemment, on fait tout. Enfin, Ami, c'est un vestiaire complet, c'est un vestiaire avec des costumes, des vestes, des chemises, des pantalons, des jeans. Enfin voilà, on essaie de créer cette garde-robe complète.
Et vos amis portent donc des dessous, puisque ce sont eux qui vous inspirent.
Exactement, je crois qu'ils portent tous des dessous. Loïc, tu portes des dessous?
Commando.
Et des dessous féminins, on a le droit aussi. Et le Préjean, on vous prend peut-être à tort pour un spécialiste de la mode. Est-ce que ça vous arrive qu'on vous pose ce genre de questions? C'est quoi la tendance pour les dessous?
Ah ouais, c'est vrai que c'est, je sais pas moi, je sais pas trop.
Je crois que le slip, il est revenu en force ces derniers temps. Voilà, je sais pas pourquoi je dis ça.
Mais... Non, je ne connais pas trop en tendance.
C'est une question dans les pépillements de la mode, ce que vous recueillez comme ça, en ayant les oreilles bien tendues pendant les défilés, les sous-vêtements.
C'est une question, c'est-à-dire?
C'est une question, c'est un thème, c'est un sujet ou personne
n'en
parle?
Mais tellement pas. Mais non, je sais pas.
Je crois
qu'on
parle très peu de sous-vêtements.
Non, sous-vêtements, non, bah non. Pas vraiment. Bah non, on n'en voit pas trop dans les défilés. Et puis les défilés sont vachement mormonisés. On n'est plus trop dans le... Il y a eu une offensive vers 2000. Vers l'an 2000, il y avait d'unibar, mais pouf, c'est la saison où Gisèle arrivait avec des seins énormes, là. Et il y avait beaucoup de seins en 2000. Et puis là, même les collections été, vous voyez pas trop de maillots de plage et tout ça, c'est pas trop leur truc.
Il y a une mormonisation, vous dites, en ce moment, de la mode?
Peut-être bien que oui. Hein. Ouais. Non, j'ai vu
et
des...
Et les slips kangourou, donc.
Chez Lanvin, il y avait eu une collection où les bras nus étaient en fait couverts de tissus couleur chair. Pour une pudeur, pour, je pense, les grands magasins de nos amis du Moyen-Orient. Et non, on n'est plus trop dans le déballage de chair sur les défilés.
C'est chez Rick Owens quand même qu'on a vu des hommes qui portaient des pantalons, mais il y avait un trou en fait au milieu pour voir le sexe.
Mmh. Parce que c'était une réflexion très juste qu'on en avait tellement fait sur celui des femmes, pourquoi on n'allait pas montrer le bout magique des hommes? Et ça a fait sourire et tout ça. J'ai un ami cadreur qui y était, il s'en est même pas rendu compte, c'est assez drôle. Il filmait le défilé hyper consciencieusement, il a pas du tout vu qu'il y avait des pénis pendant, je sais pas, il y avait 6-7 mecs quand même. Et du coup, on observait les anatomies différentes des mecs et tout, c'était assez drôle.
Et ce qui est drôle, c'est que ça a choqué et qu'on en a tous parlé. Chaque fois que je prends la parole, vous me faites peur quand vous vous rappelez mon nom.
Vous avez l'impression qu'on vous appelle au tableau, c'est génial.
Mais oui, ouais. Alexandre Matuissi, on m'appelle rarement Alexandre Matuissi.
Alexandre Matuissi.
Oui, bah non, mais c'est surtout que ça, voilà, on en a tous parlé, c'est même passé au JT, je crois.
Oui, c'est passé, bah oui, pas partout. Hein. Bah, en même temps, c'est un pénis sur un podium.
Oui,
même Jean-Pierre Pernaut est obligé d'en parler.
Bah oui.
Ping-pong. La culture sans limite.
On peut rien comprendre, cette conne. Enfin, ça fait rien. Non, c'est parti. Oui, bon, ça suffit maintenant. C'est pas la peine de serrer tant. Allez, ça va.
Numéro 1. Number 1.
Oh,
numéro 1.
Ça très bien. Oh, qu'elle est belle. Oh, ça, c'est absolument admirable. Évidemment, pas commode, mais que faire? Oh, c'était... C'est beau, ça. Ça, c'est une beauté. Oh, la femme est formidable. Magnifique.
Magnifique.
Precious little diamond.
Dance.
C'est magnifique, vous écoutez France Culture, Ping Pong, avec tout ce côté magnifique de Polymagou, le film de William Klein, enchaîné, mixé par notre DJ et programmateur musical Thomas Beau, avec le groupe Fox de Fox, Precious Little Diamond, un hymne de la disco, qui est aussi un hymne cher à votre cœur, je crois, Alexandre Matuissi. Et justement, à propos de ces petits diamants scintillants et précieux, on retrouve des sequins, des paillettes sur certains modèles que vous venez de faire découvrir au public. Alors pourquoi ces Precious Little Diamond et pourquoi tous ces sequins ?
Alors c'est pas normalement quelque chose que je voilà dans lequel je suis à l'aise. C'est vrai que j'ai une mode qui est plutôt
non sequin.
Voilà, qui est pas sequin du tout. Donc c'était un peu la surprise du défi de la saison dernière, mais c'était surtout pour le coup quand on parlait de poésie tout à l'heure, c'est justement pour la raison pour laquelle j'ai voulu montrer ces vêtements sequins, c'est parce que suite aux attentats, tous les événements de l'année précédente, on avait envie de se dire bah voilà, l'homme ami, il est aussi là, il est ancré dans cette réalité là. En fait, moi, j'habite à Paris, je vis des choses, voilà, comme tout le monde, en tant que citoyen d'abord, et que parfois nos métiers permettent de dire des choses. Alors là, je dis rien d'autre que finalement Paris est une fête, que Paris la nuit, c'est ça aussi, que on a une responsabilité, en tout cas, on a une responsabilité à rester optimiste, à montrer voilà cette joie de vivre c'est ce qui nous caractérise.
Ce qui a été dit en ouverture de l'enterrement de Sonéry Kiel.
Luc Préjean.
Ils ont cité quelque chose qu'elle avait écrit dans les années 70 apparemment, puisqu'elle écrivait des livres et tout ça. Et elle avait écrit que les artistes et les gens créatifs avaient un devoir à un petit peu éclairer un monde quand celui-ci était un petit peu compliqué.
Mais très humblement, c'était vraiment l'idée que voilà, cet homme-là, il est là et on a vécu ça quand même. Ça a été quand même une grosse claque et que voilà, le défilé, je l'ai construit autour cette idée du lever de soleil en fait. Ça se passait au palais de Tokyo dans une ambiance voilà très nocturne et on avait envie à la fin du défilé de faire réunir ce groupe de garçons et de filles face au lever du jour comme une réponse finalement aux horreurs qu'on avait traversées, de se dire voilà, le soleil se lève toujours et que d'un seul coup voilà, on pourra toujours imaginer que les choses vont bien se passer finalement.
Lorsqu'on s'est rendu avec l'équipe de ping-pong au Festival International de la Mode à hier, c'est Julien Dossena, donc qui est chez Paco Rabanne, qui présidait le jury. Il avait été demandé aux étudiants, puisque donc ils sortent d'école, ils présentent leur premier défilé, de travailler justement sur cette interférence du monde contemporain dans les collections. C'est-à-dire qu'ils avaient dit qu'ils seraient très attentifs à cette perméabilité de ce qui peut se passer dans la société et dans le monde. Il y avait notamment une des voies très explorées, c'était celle du genre. Pour vous, Alexandre Matuissi, comment est-ce que vous concevez justement cette évolution vers la troisième voie, le troisième genre ?
Moi, aujourd'hui, c'est vrai que je suis un styliste homme. Enfin, je dessine des vêtements pour hommes. Le vestiaire d'amis est essentiellement un vestiaire exclusivement masculin. Et on a plein de filles qui s'habillent chez nous. C'est vrai qu'une grosse partie.
Vous faites défiler des filles. Justement.
Alors on fait défiler des filles parce que naturellement, c'est vrai qu'on s'était dit bon, sous ces sortes de garçons, il y a que 40 garçons dans le. Enfin, moi, j'ai plein de filles autour de moi. Mes meilleures amies sont souvent il y a beaucoup de femmes qui m'entourent et je trouvais ça plutôt logique que les femmes commencent à rentrer dans notre histoire par cette porte-là.
Les femmes aussi, c'est génial.
Et on a fait défiler, très rapidement. La première, c'était Caroline de Maigret qui avait accepté mon invitation, que je trouvais, que je connaissais pas encore très bien à l'époque, mais que je trouvais très belle et qui représentait cette idée.
La Parisienne.
La Parisienne, voilà.
Elle a collaboré un livre là-dessus.
Exactement. Et puis donc, elles se sont glissé dans mon
Audrey
vestiaire.
Marnay.
Audrey Marnay, Anne Roir, il y en a plein d'autres,
j'oublie.
Charlotte, et puis des filles comme Christine, enfin Héloïse de Christine and the Queens, Charlotte Lebon, enfin on habille beaucoup de femmes aujourd'hui et c'est des femmes que j'aime beaucoup, que j'admire et puis en plus à qui les vêtements hommes vont très bien. Il y a une tendance générale, alors c'est pas de l'androgynie.
Il y a Lena Dunham qui a fait un documentaire sur justement ce vestiaire masculin, cette boutique de vestiaire masculin à New York. Mais au-delà d'une tendance, est-ce que justement c'est pas une évolution de la société, soit que vous anticipez, soit que vous suivez, Alexandre Matuissi ?
Bah, je sais pas, j'ai l'impression que les filles n'ont pas peur de s'habiller en garçon, n'ont pas peur de piquer la chemise de leur mec, et puis de se glisser encore une fois dans un vêtement homme, dans un manteau un peu trop large, dans un pantalon pas forcément coupé à la base pour elles, parce que c'est vrai que quand on devient curieux comme ça, enfin, les femmes qui s'habillent beaucoup, enfin, qui se connaissent en tout cas et qui arrivent à décrire clairement leur style, elles ont envie chez l'homme finalement de quelque chose qui est, voilà, d'un seul coup plus confortable, qui est masculin aussi, qui forcément apporte quelque chose de différent en termes d'intention aussi.
Mais vous qui vous nourrissiez de Heidi, de Face, qui avez monté ce fanzine qui s'appelait Têtu, ouais. Loïc Prigent. Justement, comment est-ce que vous le regardez, ce bouillonnement culturel de la mode? Vous le trouvez riche, inspirant, en interface avec ce qui se passe dans les autres disciplines?
En fait, moi, j'ai pas une culture de fou furieux. J'ai fait un bac littéraire en Bretagne. Après, j'ai fait des études un peu de lettres modernes. Et ce qui a été génial, c'est que quand j'ai commencé à suivre la mode, ils le faisaient vachement, les créateurs, c'était intéressant de voir des créateurs qui bossaient vraiment sérieusement et qui faisaient un manteau inspiré parce qu'ils avaient vu Joseph Beuys. Et ils le faisaient vraiment au premier degré, et totalement Joseph Beuys. Et après, il y avait la collection d'après, vous faisiez 300 mètres, et il y avait une collection, et Martine Sidbon vous parlait des constructivistes russes. Et après, vous avancer un peu, et Karl Lagerfeld avait fait une collection chez Chanel inspirée par le rideau de scène de Antigone monté en 22. Et voilà. Et donc, vous rentrez à la maison.
Sophocle ou Anouilh, hein, parce qu'attention, hein, c'est pas la même chose. Sophocle ou Anouilh?
Ben, je sais pas lequel, justement.
Si c'est en 22, non, c'est
Sophocle. C'est Sophocle. Et ce qui est bien, c'est que vous êtes enrichi de ça à la fin de la journée, quoi. Et ces gens ont un appétit assez vorace et sans complexe pour la culture. Ils en ont vraiment besoin. Ils s'appuient là-dessus. Et ça crée une culture empirique, si vous l'observez, qui est assez drôle et assez intéressante. Et ça a été mon... Finalement, si j'ai un peu suivi des cours d'histoire de l'art, c'est en écoutant les briefs d'inspiration des créateurs.
Que penses-tu de la mode à Paris? La seule mode qui existe au monde est Paris. Quels sont les personnages de la mode que tu préfères? Mon modèle favori à Paris est Brad Gooch. Il écrit des poèmes.
Brad Gooch. Yes, he writes poetry between modeling.
Let's say it together.
He writes Brad Gooch.
I love girls. They're all over this world.
Une archive de France Culture de 1980, l'année de votre naissance, Alexandre Matuissi. C'était Andy Warhol au micro de Olivier Pacadis, enregistré en plein palace à Warhol, à qui on demande, voilà, qu'est-ce que c'est la mode pour toi? Il répond, c'est Brad Gooch, ce mannequin qui est beau, sexy et qui écrit de la poésie. On le découvre dans tous ces pépiments rassemblés par vos soins, Loïc Prigent, j'adore la mode, mais tout ce que je déteste, donc qui sont publiés chez Grasset, toutes ces phrases que vous avez attrapées, c'est que peut-être qu'au fond, d'abord, la mode, c'est bien sûr une entreprise commerciale, c'est bien sûr des nourritures esthétiques et artistiques très profondes, mais c'est aussi tout simplement de l'amour et de la poésie. On en a dit un mot. Vous condensez toute cette pensée, toutes ces réflexions dans des, voilà, des 140 caractères, des tweets. Vous cristallisez toute cette pensée. Est-ce que on peut pas rapprocher ça, Alexandre Matuissi, du geste du styliste, du geste du dessinateur qui, au fond, doit cristalliser toutes ces inspirations, tout ce que vous filtrez, comme vous le disiez tout à l'heure, dans une forme? Est-ce que vous nous donneriez un exemple comme ça de forme que vous avez pu dessiner et découvrir peut-être après coup?
Non, en fait, comment dire, le processus, en fait, de comment faire une collection. On a tous une méthode qui est très différente. Hein. La mienne, je l'aborde toujours je commence toujours une collection en posant cette question très simple, qui est qu'est-ce que j'ai envie de porter? Voilà, qu'est-ce qu'on a envie de porter l'hiver prochain? Et c'est la réflexion qu'on partage au bureau avec tout le monde, c'est avec mes stylistes, avec les chefs de produits qui sont amenés à travailler sur la collection également, c'est se dire bah, de quoi on a besoin finalement. Alors après, il y a une réalité commerciale, toujours, on construit une entreprise avec, voilà, avec un chiffre d'affaires. Aujourd'hui, j'ai plus de 70 salariés, donc il y a des, voilà, les challenges ont beaucoup changé ces 5 dernières années, mais en tout cas, dessiner une collection, c'est aussi se faire plaisir. Donc on parlait de plaisir, de poésie, tout ça. Donc, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire, c'est toujours prendre énormément de plaisir à le faire. Et c'est de pas trop intellectualiser le propos, en tout cas pour moi.
Mais si on peut le décrire sans l'intellectualiser, et qu'on parle juste de forme, parce qu'il s'agit quand même de ça, dans ce que vous proposez avec le vestiaire Ami, c'est quand même des formes, des détails qui attrapent le regard et qui voilà, donnent envie aux hommes, aux femmes de porter vos vêtements.
Bah écoutez, je vous remercie. Non, c'est un travail de proportion. Alors le vrai travail, en fait, plus que le travail d'inspiration. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai envie de dessiner, alors, je me réveille un matin en disant j'ai envie de dessiner un pull rouge, parce que c'est pas plus compliqué que ça parfois, et d'ailleurs souvent. C'est donc qu'est-ce qu'on va en faire de ce pull rouge. Donc ça passe vraiment au départ autour du dessin. En effet, comme vous le disiez juste avant, c'est on va dessiner ce pull, on va envoyer ce dessin à notre fabricant, qui va donc interpréter ce dessin, donc en suivant bien sûr toutes nos recommandations, et puis du coup on va recevoir un premier prototype, donc un premier échantillon de ce pull, et on va faire un fitting avec un mannequin, voilà, sur lequel on va passer quelques minutes, parfois quelques heures, à finalement ajuster ce vêtement. Et donc l'idée de la proportion, en tout cas moi mon travail tourne autour de ce truc-là beaucoup plus que qu'autre chose. D'ailleurs c'est vraiment comment cette manche va tomber sur une épaule, quelle longueur on a envie que la manche arrive, elle tombe sur la main, à quel moment on parle de la longueur du pull, est-ce qu'on a envie qu'il tombe un peu plus au-dessus des fesses, en dessous des fesses. Donc c'est tout ce travail, donc c'est vraiment très très subjectif, parce que c'est un moment qui, voilà, que on peut partager avec plein d'autres personnes, mais je le fais, enfin tant que je suis pas content on continue, et puis quand je suis content on se dit bon bah là le pull il me semble pas mal, après je l'essaye, on l'essaye, on le fait tourner à droite à gauche, et puis après on le lance, et puis on le présente au défilé. Enfin tout le processus, en fait c'est quand même aussi un métier, il faut savoir, qui est quand même extrêmement long, en tout cas le entre le moment, en tout cas par exemple les collections que nous sommes, enfin les collections qui sont en ce moment en boutique, donc la collection automne-hiver, parce que nous on les appelle encore comme ça, automne-hiver 2016. Voilà, les premiers dessins, on les a lancés en juillet 2015. Donc le processus entre le moment de créer, penser aux vêtements, le dessiner, le montrer, parce qu'il faut le montrer pendant le défilé, le vendre à nos clients, le produire, le livrer et l'amener dans une boutique, bah, il s'est passé plus d'un an en fait. Et ça c'est impondérable. Enfin, en tout cas, nous aujourd'hui dans notre situation, on peut pas réduire ce temps-là. Alors après, je pourrais dessiner beaucoup plus vite, livrer beaucoup plus vite, mais là d'un seul coup, l'industrie n'est pas encore organisée. Donc c'est vrai qu'on parlait du Sina Baina. C'est-à-dire que ces collections qu'on voit en direct, un défilé, et qu'on peut acheter directement soit dans les boutiques ou sur Internet, il y a encore très peu de maisons qui peuvent vraiment le faire, parce que l'industrie ne s'est pas encore organisée.
On pourrait finir avec l'une de vos citations, parce que j'ai l'impression que ça ressemble à un pépillement de ceux qui sont recueillis par Loïc Prigent dans La Mode. J'adore, mais c'est tout ce que je déteste. Et pourtant, ça ne l'y est pas, mais c'est pas mal. Quand Lara Fabian a chanté sa première chanson, tout le monde a pensé que c'était Céline Dion. Moi, c'est pareil, quand je suis arrivée, on a pensé que j'étais APC. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui, Alexandre Matuissi, en quoi vous êtes bien Lara Fabian et pas Céline Dion?
Oh, si j'ai pensé un jour avoir à répondre à cette question, donc
sur France Culture.
Sur France Culture. Non, en fait, c'est vrai qu'on a tendance à, quand il y a un nouveau sur la place, que voilà, je suis arrivé il y a donc 5 ans. J'ai vraiment eu beaucoup de chance, parce que j'ai été extrêmement bien accueilli par la presse, par nos clients. J'ai rencontré mon client très très vite. Alors quand j'ai rencontré mon client très vite, c'est très vite les gens ont eu envie de s'acheter, voilà, des vêtements amis, et au même temps, j'ai dû convaincre au départ, il faut dire on est singulier, on a un truc qui est différent. Alors oui, je vais faire un pull gris, une chemise blanche, un jean, une paire de baskets, voilà. Alors j'ai envie de dire un peu comme non, mais je vous jure, ça sera différent, ça sera pas comme APC, ça sera pas comme Acne, ça sera pas comme d'autres marques, parce que voilà, on a tous une façon différente de dire les choses. Et la comparaison avec Lara Fabian et Céline Dion, bah voilà, c'est vrai. En plus, quand Lara Fabian a chanté pour la première fois, on a pensé que c'était Céline Dion. Voilà, on fait notre place, on a un truc à dire. Et alors, je dis toujours, il y a de la place pour tout le monde si on y croit et si on croit beaucoup en soi, si on a confiance en soi. Enfin, il faut se battre pour faire exister notre histoire, quoi.
Loïc Prigent, sur le Lara Fabian, le côté Lara Fabian, le profil Lara Fabian de... d'Alexandre Matuissi.
Oh mon Dieu. Il a du coffre.
Ping-pong. Mais c'est déjà fini.
Merci beaucoup.
Merci
à tous deux. Alexandre Matuissi, Loïc Prigent. Alexandre Matuissi, donc, vous représentez, vous incarnez et vous portez à l'occasion le vestiaire Ami, votre boutique Amiral. Où est-ce qu'on peut la trouver?
Alors, il y en a trois à Paris, mais boulevard Beaumarchais, 95 boulevard Beaumarchais dans le 3e arrondissement et rue d'Alger, 14 rue d'Alger dans le 1er arrondissement.
Vous, Loïc Prigent, peut vous retrouver dans toutes les librairies avec J'adore la mode, mais c'est tout ce que je déteste, publié chez Grasset. Et on peut vous retrouver aussi à la télévision en ce mois de septembre. À partir du 26 septembre, c'est Catherine Deneuve lit la mode sur Arte. Et qu'est-ce que la haute couture? Ce sera le 30 septembre sur Arte également.
Et si vous voulez citer du Prigent dans le texte, vous dites on se connaît pas, mais on s'adore. Et puis apparemment, en cette saison, pour la prochaine semaine de la mode, il a vêtementisé le propos. Le ping-pong est un petit défilé radiophonique qui se prépare en équipe. Et quelle équipe? À la rédaction Aïssa Touendoy, Jeanne Aléo, Seam Boutata et Mathilde Cadreau. À la réalisation Thomas Beau et à la prise de son ce soir Théo Gomard et David Federman. Bon. Et dans un instant, à voix nue sur France Culture, bien sûr.